Jean chapitre 3. On est prêt pour la parole, prêt de manger? On est toujours prêt de manger, n'est-ce pas? Et on va manger la parole de Dieu, on va manger Matthieu 4:4, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean chapitre 3, verset 7, peut-être on peut mettre le verset sur l'écran, merci pour ça. S'il vous plaît, vous pouvez être assis pour la lecture de la parole. Se lever pour la lecture de la parole. Donc, merci. Horacio, je peux lire ça pour nous.
Tu veux que je lise le verset? Ok. Jean 3, 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Next. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau.
Seigneur, merci pour la parole ce matin. On honore toi, Seigneur. On t'adore. Merci pour la beauté de le corps de Christ. Et merci, on est là pour écouter. On va vivre en éternité avec toi. Et amen, Seigneur, pour la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu et bénir, voir, conduire ta parole, guérir, sauve. S'il est quelqu'un pas sauvé, sauve-les en écoutant ce message. Merci, Seigneur. Amen. Ok, merci pour vous être assis. Dans la vie chrétienne, nous avons une habitude d'utiliser les étiquettes, n'est-ce pas? On pose les questions. Quelqu'un vient dans l'église. Est-ce que tu es un frère ou sœur? Des fois, on utilise un langage chrétien, un langage christianise, on peut dire, si on utilise. Et on utilise. On est en train de dire quelque chose et c'est un mélange de langues, en fait. C'est unique à l'Église. Et des fois, c'est un mystère. On utilise le mot « sauvé ». On utilise le mot « chrétien ». On utilise le mot « croyant ». On utilise le mot « disciple ». Mais des fois, on ne comprend pas. C'est un mystère pour nous. Mais ce matin, et je crois probablement, on est tous sauvés, on est tous, on connaît le Seigneur Jésus-Christ, tous dans cette salle, et peut-être aussi pas une, mais je pense qu'il faut retourner et ne pas être familier avec quelque chose qui est le plus important dans nos vies. Jean chapitre 3 est un chapitre souvent cité, Jean chapitre 3 verset 16. Il faut aller derrière les paroles imprimées sur les pages. Il faut aller derrière parce que c'était écrit, évidemment pas Jean l'apôtre, mais il était inspiré. Et c'est la parole qui parle. La parole fait chair. Jean chapitre 1, verset 1. Et Jean, nous avons 4 évangiles. Et rapidement, je vais juste dire, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu parle aux Juifs. C'est la raison que c'est écrit dans une certaine façon. Marc, c'est plutôt pour les Romains. C'est action. Beaucoup d'action. Luc, c'est l'homme parfait. En fait, c'est l'homme qui accomplit tout le loi. Il est l'accomplissement de la loi. Et Jean, c'est l'aigle. C'est le Dieu. Le Fils qui vole en l'air avec une perspective éternelle. Et c'est de montrer en Jean qu'il est Dieu. Et on a parlé. Qu'est-ce que la version utilisée? Je vais juste lancer la question. Quel verset on a cité pour dimanche passé? Quel verset? Est-ce que quelqu'un connaît? Ok, je sais. Attends. Quelqu'un autre? quelqu'un d'autre qui ont rappelé le message de dimanche passé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis, mais je suis quoi?
Le chemin, la vérité, la vie.
Le chemin, la vérité et la vie. Et on voit qu'il est Dieu parce qu'il dit, je suis. Avant Abraham, je suis. Je suis la parole fait chair. Je suis Dieu. Et je suis éternel. Et c'est uniquement par moi que vous pouvez m'approcher pour la vie éternelle et pour vivre en éternité. Mais maintenant, je vais focaliser sur un autre point. On a lu le verset. Jean, toi, et on a lu verset 7. Et le parti qui me tape dans la tête, il faut être né de nouveau. Il faut. Il n'y a pas des options. Et la première chose en bois dans ce chapitre, Jean chapitre 3, et je vous encourage de prendre votre Bible et avant de manger le midi, lire le chapitre. Non, c'est une blague, vous pouvez manger. Mais cette semaine, lecture prend une demi-heure et pour lire Jean chapitre 3. C'est tellement important. En Jean chapitre 3, un homme s'appelle Nicodème vient pendant le Noé. Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Et il approche, il a une réunion discrètement avec Jésus. Il est premièrement pharisien. Les pharisiens sont les gardiens. C'est ceux qui sont littéralement pharisiens parlent d'être séparés. Donc, ceux qui sont séparés de la société pour être consacrés à Dieu. Mais le problème, ils sont les fondamentalistes, on peut dire, à droite. Ça veut dire le côté droit, si on peut penser politique. Fondamental, mais sans la vie de Dieu. Donc, ils sont des experts, mais sans le cœur de Dieu. Les sadducéens, plutôt côté gauche, plutôt libéral, si on parle dans un sens politique, mais c'est pas politique, mais juste pour focaliser nos pensées, ils croient pas littéralement qu'il y a une vie après. Donc, c'est tout maintenant sur la terre, mais pas des démons, pas le diable, pas les esprits, pas la résurrection. Quel espoir! Un pharisien s'appelle Nicodème approche. C'est intéressant, Nicodème. Riche, probablement. Discrète, pourquoi? Crainte des autres juifs religieux. La pression de ses frères dans son secte. La pression. Donc, c'est la raison qu'il est discret pour approcher pendant la nuit. Personne ne sait, personne ne connaît cette réunion. Mais on connaît parce que c'est écrit. Érudite. Il faut savoir quelque chose des pharisiens et quelque chose que j'entends de les rabbins juifs dans cette époque maintenant. Il prend ses copies personnelles de la parole de Dieu, évidemment c'est l'Ancien Testament, le prophète et la loi, et pour un test de mémorisation, tu prends un clou, oui, tu prends un clou et tu perces une partie de chaque livre, perce de cette côté jusqu'à la fin, et enlève le clou et tu dis, OK, cite chaque parole, chaque mot qui était percé dans chaque page. Voilà, OK. On va avoir mémorisation. Mémorisation de la parole, mais pas la vie de la parole, qui est Dieu derrière en Psaume 40, verset 7. Je suis dans le rouleau de la livre. Je viens. Parce que la loi est écrite dans mon cœur pour accomplir ta volonté au Père, Père Dieu. Jésus-Christ est la parole. Et lui, il connaît la parole. Et il vit la parole. Et il exprime la parole. Nicodème, un homme érudit qui voit des choses. Le vent souffle, il a dit. Jésus a dit. Le vent souffle partout. Et tu entends. Et tu vois dans les arbres. Mais tu connais pas la direction. Tu connais pas qu'est-ce qui va passer après. C'est possible pour nous de voir externement les activités que nous avons. Si j'étais là pour la première fois, je proche, entrer par cette porte, pendant la louange, je vois les gens en train de prier, de chanter, les mains comme ça, les yeux fermés. Qu'est-ce que je vois maintenant? Un homme en train de prêcher quelque chose que je ne comprends pas et les gens ensemble en train d'écouter. Mais qu'est-ce qui est vraiment en train de passer? C'est pas possible de savoir et Nicodème peut ne pas comprendre qu'est-ce qui est en train de passer. Il est dit, verset 2, on connaît que tu es un homme qui vient de Dieu parce que Dieu peut pas être avec toi si c'est ce que tu as fait tous ces miracles. C'est à toi. Dieu est avec toi et on voit les miracles et les prodiges. Mais il est dit, en fait, s'il est là avec Jésus, parce qu'il comprend pas quelque chose, et il pose des questions. Et quelle est la réponse de Jésus? Tu comprends toutes ces choses, mais tu ne comprends pas le cœur de Dieu. Tu ne sais pas. Et il a dit trois fois dans ce chapitre pendant le début, tu vois les choses, mais si tu ne vas jamais voir le royaume de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, il faut être né de nouveau. Et Nicodème, en train de penser comme une bonne religion, littéralement, mais je ne peux pas être né de nouveau, je ne peux pas entrer. Comment on peut entrer dans le ventre de sa mère une deuxième fois? Et la réponse de Jésus est énigmatique aussi. Il a dit, si tu n'es pas né de nouveau, il faut être né une fois par l'eau. Ça veut dire physiquement, biologiquement, une naissance normale. Mais il faut être né de l'esprit. C'est la deuxième fois. Imagine Nicodème, sa tête tourne comme ça, il ne comprend pas. Des fois, ça c'est nous aussi. Il dit, il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer non plus. Ça veut dire, ici, j'utilise cette illustration. On est en salle là, ok? On ne peut pas voir, mais si quelqu'un prend une perceuse, on va attendre, oui? Et peut-être s'il casse quelque chose, la poussière va sauter de cette toit. On discerne quelque chose, mais on ne peut pas voir et on ne peut pas avoir accès de le premier étage. Donc c'est un mystère, qu'est-ce qu'on est en train de passer là-bas? Si on est né de nouveau, on a accès de cette première étage. Sinon, on reste ici, là, dans ce niveau naturel. On voit des choses, mais on ne comprend pas les choses. On pose la question, qu'est-ce que s'est passé après ma mère mort? Qu'elle ferme ses yeux? Dans quel endroit elle va aller? Est-ce qu'elle va cesser d'exister? Est-ce que plus là? Ou est-ce qu'elle va arriver dans un endroit après la mort? On pose la question, qu'est-ce que se passe quand quelqu'un est comme ça en train de prier? Et on voit la personne est due après. On dit, il y a quelque chose ici, mais je ne comprends pas. Jésus dit, tous ces mystères sont devant, mais vous comprenez pas. Nicodème, sois pas étonné que je dis, il faut être né de nouveau. Donc Nicodème est en devant Jésus. Mais c'est comme il est là, mais le royaume est là. Il ne peut pas toucher. Il ne peut pas entrer. Voir le même qu'on voit les gens en train de faire le même. On est là, on est bloqué. On peut dire bonjour, on peut voir vos visages. Mais il y a une limite ici, une barrière. On est en contact, mais pas le cœur. Il faut être né de nouveau. Donc, Nicodème en train de parler avec Jésus, nous aussi. Est-ce qu'on a rappelé le moment avant on était sauvé, on était devant quelqu'un et la personne en train de parler de Jésus pour nous? Oui, je suis religieux, je prie tout le temps. Oui, je prie au Dieu. Oui, je lis la Bible, mais je ne comprends pas. Quelle est la différence entre toi et moi? Il y a une différence. C'est une naissance spirituelle. Il faut être né de nouveau. Il n'y a pas une autre possibilité. Donc, on observe ces choses et on ne comprend pas. Cette étape est la plus importante dans la vie de quelqu'un. Des fois, on est chrétien depuis combien d'années? 20 ans? Certains 5 ans, certains 10 ans, certains 20 ans, 25 ans. Est-ce qu'on comprend le miracle de la naissance de nouveau, d'être sauvé? Je demande souvent, Seigneur, amène quelqu'un devant moi afin que je puisse conduire cette personne à Christ. Le moment de naissance de quelqu'un est tellement magnifique. Quelqu'un avait un bébé, naturellement, évidemment c'est des femmes, on parle. Mais vous avez rappelé la première fois que ton bébé a sauté de le ventre, ta ventre. Tu vois le bébé, le visage, la fille ou le fils. Tu vois, il dit, waouh, c'est un bébé, c'est comme moi. Oh, blou, 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 blou. Le bébé fait ça, on regarde comme ça. On peut passer des heures. Juste, ah, il faut amener le, maintenant c'est des couches parce que, pff, toilette. C'est un miracle, oui. On voit quelqu'un qui est tellement petit, mignon comme ça, mais après, ça va être comme nous aussi. Il ne faut pas perdre cet émerveillement de la vie chrétienne. Je vois mon ami en Angleterre, des années en arrière, sauvé. C'était tellement simple. Il a dit, il n'y a pas un culte spécial qu'il faut faire, prier pour 10 heures ou quelque chose comme ça, et marche les genoux. Non, il n'a pas dit ça, mais il a pensé qu'il y a quelque chose de plus important à faire, significant. Il a dit non. Il a prié et il était sauvé. Ça, c'est un mystère. Mais j'ai vu sa visage après. C'était différent. Joyeux. Il faut savoir, il faut voir ça et dire, waouh, j'ai vécu ça. Merci Seigneur. Que je ne peux jamais oublier comment c'est merveilleux de voir quelqu'un sauvé. Je te sauve, j'ai passé de la ténèbre et maintenant je suis dans la vie. C'est pourquoi on évangélise. Parce que c'est un miracle de voir quelqu'un sauvé. Et pour Jésus, et pour les anges, célébration au ciel, et pour imaginer nos familles qui sont passées devant nous, qui sont avec le Seigneur. Wow, ma nièce est sauvée, merci, amen, merci Seigneur. On va passer l'éternité ensemble. De voir le mystère de quelqu'un qui passe entre l'obscurité et l'aveuglement jusqu'à la vie. Demandons ça. C'est le point le plus central dans la vie de quelqu'un. Je suis marié en 2011. Je suis venu en Suisse en 2004. Mais le moment que j'étais né de nouveau, ça c'est le moment pivotal dans ma vie. Ah, demande au Seigneur, demandons comment j'ai vécu, quels sont les moments, quelles choses qui sont passées, quelles sont les dernières paroles avant que j'ai passé dans la vie que j'ai maintenant. Il faut qu'on comprenne quand les gens qui visitent l'église, et ça c'est important, parlent avec quelqu'un, waouh, super, bienvenue. Donc tu es croyant, tu es sauvé, tu es chrétien. Non. Est-ce que tu veux être sauvé? En Angleterre, dans l'église de Pasteur Alistair Chester, il avait un homme qui était présent dans l'assemblée. Il est marié, sa femme était vraiment dans l'église. Et lui, il est un peu discret. Et après quelques années, quelqu'un a posé la question, qu'est-ce qui se passe si tu étais sauvé? Il a dit non. Il avoue comme ça, mais il n'a jamais entré dans la vie. Il ne peut jamais partager la joie. Il ne peut jamais expérimenter ça. Il faut que quelqu'un est sauvé parce qu'il est un moment que le chemin d'avise en deux directions et ça veut dire le moment d'être mort ou le moment d'enlèvement. Et on est en train de marcher ici, ensemble, avec des frères et sœurs peut-être. Mais quelqu'un qui n'est pas sauvé, on va passer à la droite et la personne qui n'est pas sauvée va être seule à la gauche. C'est important qu'on confronte les gens. C'est important avec douceur, s'il vous plaît, avec humilité, s'il vous plaît, avec sagesse, avec une parole à propos. Mais faut, si le Seigneur donne une parole et dit, demande à cette personne. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que le Seigneur est ton sauveur et Seigneur pour l'éternité? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Est-ce que tu as repenti? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu as une vie avec lui? Est-ce que tu as une soif pour la parole? Est-ce que tu as un désir de marcher avec lui? Est-ce que tu as un désir d'être ensemble avec les frères et sœurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort quand on adore le Seigneur et on a une onction qui est magnifique? On en dit, Seigneur, j'arrête. Amen, merci Seigneur. Je veux que tu sens mon cœur. Et ces choses mystérieuses, et c'est ça, et on peut dire, tout ça est la vie qu'on ne peut pas exprimer. Il faut confronter des gens des fois. Peut-être ils ne vont jamais parler avec nous de nouveau. Mais oh, je préfère que quelqu'un ait au ciel avec moi qui est un peu offensé. Que quelqu'un qui est maintenant en enfer, il a dit, tu n'as jamais demandé. Il faut que chacun est né de nouveau. Comment il faut être né de nouveau? Et ici, je pense aussi aux gens qui vont écouter ce message, peut-être en 5 ans, peut-être en 2 ans, mais c'est un rappel pour nous que ce n'est pas une petite chose de mépriser. On ne méprise pas les petits commencements, les semences. Quelle est la signification, quelle est l'importance? C'est le moment que le Saint-Esprit descend et reste en nous. C'est le moment qu'on repente. Seigneur, je tourne vers toi. Je suis pécheur, sauve-moi, aide-moi. Je confesse tous mes péchés devant toi. Silence, évidemment, pas confesser audiblement. Mais je confesse ça. Quelle est la chose qu'il faut dire? Quelle est la chose qu'on doit comprendre qui passe? Parce qu'on peut prier avec quelqu'un et la personne a dit, moi, je prie la prière. Après ça, il va me laisser tomber. Je peux avoir un peu de paix. C'est pas la prière qui sauve. Je prie avec les gens de temps en temps dans cette église qui vient. Mais je dis, c'est pas la prière qui sauve. C'est le cœur. C'est la foi. Première chose, Actes chapitre 8, verset 37. Philippe est en train de parler avec le eunuque d'Éthiopien. Il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est pas une question après, 5 ans après, tu dis, oui, je suis chrétien, mais je ne crois pas Jésus-Christ est Dieu. Non, il est Dieu ou il n'est pas Dieu, mais il n'est pas Dieu. il n'y a aucun espoir pour toi. Il est Dieu qui a existé depuis le début. Jean chapitre 1, verset 1. Et la parole fait chair. Dans le début, dans le commencement, il était la parole. La parole fait chair. Il était avec Dieu. Il est côté de Dieu. Ça veut dire qu'il a toujours existé. Jean 8, 58. On a déjà dit cette verset. Avant Abraham a existé, je suis toujours. Et ça veut dire qu'il est là pour nous toujours. Il intercède pour nous toujours. Il nous soutient toujours. Ça veut dire jusqu'à le moment. Et le moment où on souffle, la dernière fois, on est passé de cette vie. Il est présent avec nous de donner la grâce pour mourir. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Le deuxième. Jean 11, 56. Il est mort pour le peuple. Et ça, c'était cité par Caïphe, le sacrificateur principal en Israël, qui n'a pas cru en Jésus, qui a vu que Jésus est tué. Sur le quoi? Mais il a confessé quelque chose par l'esprit qui utilisait sa bouche pour dire, c'est nécessaire pour un homme seul de mourir pour tout le peuple afin que la nation ne périsse pas. Ça veut dire, une personne doit mourir dans notre place. Et il faut comprendre ça. Vous n'êtes pas en train d'essayer d'améliorer vos vies. Vous n'êtes pas en train de dire, oui, je peux faire mieux. Un seul sacrifice donné par un seul homme pour éternité, pour tout chacun dans cette salle et chacun qui vit sur la terre, passé, présent et futur, et le sacrifice est suffisant. Ça, c'est Hébreux chapitre 10, verset 12. Un seul sacrifice pour tous les péchés. Mais j'ai fait un péché qui est horrible. Personne ne peut me pardonner. Oui, tous les péchés. L'agneau immolé avant la fondation du monde, son sang est parfait. Sur le quoi? Son sang est le sang de Dieu, pas le sang d'un homme. Et sur la propitiation, devant la présence de Dieu, son sang est présenté et le Père dit, Amen, j'accepte ce sang pour toi et pour toi et pour toi. Et on peut approcher Dieu grâce à cette son. Il a pris notre place. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Enterré, oui. Mais il est devenu péché pour nous. Ça veut dire qu'il n'est pas pécheur, mais il était substitut. Pour nous, il est le substitut pour Georges. Et quand Georges fait des bêtises, il était le substitut pour la ancienne nature pécheresse, la vie de soi qui est en Georges et en Marie-Pierre et en nous tous ici. Et quand on veut faire des choses pour nous-mêmes, son substitution était là sur le croix pour chacun de nous. Et un jour, on va être sans ancienne nature pécheresse. On ne va être pas indépendant, on ne va pas être rébellieux, on ne va pas avoir des pensées, on ne va pas avoir des désirs. Un jour, c'est fini. Il est enterré et ressuscité. Si quelqu'un dit, oui, je crois que Jésus est Dieu, mais il n'était pas mort pour moi. Oh, ah oui, il n'est pas mort pour toi. S'il n'est pas mort pour toi, tu vas mourir dans tes péchés. Jésus a dit ça les pharisiens. Il dit, moi, je vais aller dans un endroit que tu peux pas entrer. Mais vous, vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez rester attaché à la terre et finalement meurt. Et après, une vie de séparation pour l'éternité. Il est le substitut. Il est mort et il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, un jour on va être ressuscité avec un corps glorifié, parfait. On va être comme les anges et plus que les anges. Et on va juger les anges. Il est mort, mais il n'a pas resté mort. Ça, c'est extraordinaire, la résurrection. Il a dit, Jean chapitre 11, verset 25-26, Marie a dit, je crois que Lazare, qui est maintenant dans le tombeau, va un jour, bien sûr, va être ressuscité comme le Dieu. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu vas croire que si tu vas croire en moi, tu vas vivre? Et si tu meurs physiquement, tu vas vivre spirituellement et après physiquement aussi. Et la question est la posée, et ça c'est important. Marie, est-ce que tu crois ça, la chose que j'ai dit? Et je pose la question pour nous, et bien sûr, vous pouvez dire dans vos pensées, mais parce qu'on est en train de prêcher quelque chose, nous avons 30 centaines de fois. Mais je pose la question à chacun de nous ce matin. Est-ce qu'on croit ce que Jésus dit? Qu'il est la source, il est la résurrection. Et le jour qu'on va être devant lui, on va être ressuscité. Il faut savoir, c'est une décision personnelle. Et si quelqu'un est en train d'écouter ça, quelqu'un est en train de réfléchir, ma foi n'est pas liée avec la foi de ma femme. Well, elle est tellement spirituelle et, oh, je suis attaché à ma femme, je suis ma femme partout, j'écoute. Non, c'est pas sa foi. Dieu va pas accepter sa foi dans ma place. Je prose le Seigneur le dernier jour, je suis dans sa présence et je dis, je présente ma femme, elle était pieuse, elle était très, wow, magnifique, et j'écoute, je suis ma femme. Oui, il a dit, mais toi, est-ce que tu crois? Pour toi-même, et c'est ça qui compte. C'est pas juste parce que nous avons une famille chrétienne que nous sommes chrétiens. Et c'est pas juste parce qu'on est dans une église qu'on est chrétien. Si quelqu'un est dans cette église, tu n'es pas automatiquement un croyant juste parce que tu as un siège. Tu es un croyant parce que tu as accepté et pris une décision personnelle. Et il faut qu'on présente ça à chacun. Chacun doit décider parce que chacun va être seul devant Dieu. Au tribunal de Christ, on est seul devant Dieu de présenter tout ce qu'on a vécu et le Seigneur va donner certaines récompenses. Et pour ceux qui sont devant le grand tremblant, ils sont seuls. C'est pas quelqu'un à côté, pas les autres là. La lumière est sur une personne et tout qui était dans le ténèbre est exposé. C'est trop tard. C'est trop tard. Décision maintenant. Décision maintenant. Si la personne accepte ça, et la personne accepte aussi quelque chose d'important qui je vais dire qui est important pour nous ici. Donc écoutons bien. On a une ancienne nature pécheresse. On a une nature rébellion, une nature indépendante. Cette nature est toujours tellement malin, en train de faire les magouilles. Est-ce qu'on connaît les gens qui font ça? Tu dis, il faut aller là-bas à la caisse pour enregistrer et faire le nécessaire avec le bureau de l'État de Genève. Et il faut faire ça, ça et ça. Les personnes essayent de courir et de faire un petit magouille. Ils disent, mais si je fais ça et je fais ça, personne n'est en train de regarder. C'est un secret entre nous. Est-ce que quelqu'un essaie de vendre une voiture comme ça à vous? Quelqu'un qui propose une affaire de business comme ça? Tu peux dire, ouh, pas des exceptions devant Dieu. Pas des magouilles. Mais notre ancien cœur, notre nature est tellement comme ça. Et donc, on peut dire, c'est pas un problème. Dieu est pas en train d'écouter. On peut faire comme ça. C'est juste un secret entre nous. C'est maudit. Ça s'appelle la chair. Ça s'appelle l'ancienne nature. Ça s'appelle le cœur. Mon ancien cœur. C'est l'indépendance. Je n'ai rien à faire avec lui. Et cette nature est en train de, comme une schizophrène, est en train d'essayer de faire des choses à part. Cette nature était crucifiée, et ça c'est pourquoi c'est tellement important qu'on voit qu'on est sauvé et on défie les gens de ne pas être des bons membres de l'Église, mais les fils et les filles de Dieu, les gens qui sont devant lui jour et nuit, les gens qui ont une confession de la foi. Il faut être né de nouveau. Et donc, cette nature doit être enterrée. Donc, imaginons, nous avons un zombie dans notre zombie, un vivant mort. Il faut, paf, et mourir, enterrer, et il dit, ça, c'est la fin. Et ça, c'est notre nature. Ancienne nature. Comme un zombie, on voit dans les films, hein, c'est horrible, hein, avec les choses en train de tomber, tout. Il dit, ah. Ça, c'est notre nature dans sa gloire. Caché, mais c'est horrible en réalité. Et c'est mort. Et il faut accepter, si quelqu'un est sauvé, c'est ça va pas bouger. Et chaque fois que ça bouge, tu es mort en Christ. Je vis en lui. Tu es mort, l'ancienne nature. Tu as aucun droit de gérer ma vie. Arrête, tais-toi. Et donc, c'est de regarder lui. Donc, on peut dire, oui, je suis un bon chrétien, je suis le pasteur, j'ai vécu 20 ans avec le Seigneur, je suis, comme on veut, ancien missionnaire, étudiant. Mais cette zombie est toujours là. Il cherche les opportunités. Ma chair va pas améliorer. Mon ancien nature va toujours chercher les bêtises. Laisse aucune place pour lui. Aucune place. Et ça, c'est pourquoi c'est important d'être sauvé. Lui, il va toujours faire des mimiques. Il est comme un, quel est le nom de cet animal, qui mimique un homme? Un caméléon. C'est toujours un caméléon qui change de couleur, qui parle la langue. Amen, praise the Lord. Mais c'est faux. Il n'est pas l'esprit, il n'est pas Dieu, c'est juste le malin. Il faut qu'il reste enterré. Et la dernière chose, et je vais terminer avec ça, et c'est applicable pour croyants et pour non-croyants. Il faut croire avec tout ton cœur. Pas un cœur partagé, oui, mais j'ai un plan dans la vie, je vais faire ça, je ne fais avec cet homme, on va acheter une maison à Sion, on va faire un peu de, qu'est-ce qu'on dit, un peu de business, un peu de... Je cherche pour le mot en français. On va faire un arnaque, on va faire quelque chose. Non. Pas des places, pas les substitutions, pas les plans B. C'est le plan A et c'est ça. Et le moment que quelqu'un est sauvé, il confesse. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. De confesser avec la bouche. Mais ça commence avec le cœur. Donc, avec le cœur, je crois, avec la bouche, je confesse. C'est un externe. C'est une manifestation. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. Chaque décision qu'un croyant prend, chaque décision pour nous, il faut croire, faire confiance, tenir totalement lui. Pas des plans B. Si vous avez des plans B, Dieu va dire, OK, c'est maudit, tu vas voir très bientôt, le plan B va finir. Tu vas chercher quelque chose d'autre, mais ça ne va pas marcher. Plan A, quoi en toute chose. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. On fait confiance, pas dans notre propre intelligence, mais on fait confiance en lui et lui seul qui était, qui est et qui aura, il va être, qui sera. C'est lui. Et donc, il faut savoir, chacun doit être sauvé. Et quand on est sauvé, la confiance en lui toujours continue. Donc, décision devant chacun de nous aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ok, Seigneur, j'écoute ta voix. Conduis-moi pour conduire la voiture. Conduis-moi quand je prends le train. Conduis-moi quand je dis qu'est-ce que je vais manger. Conduis-moi dans tous les éléments de ma vie. Sinon, c'est le zombie. Il va ressuscité, il va être là et on va faire quelque chose pas bien. Il faut être né de nouveau. C'est la seule chose pour une personne. Après ça, la vie ouverte. Après ça, il y a la croissance. Après ça, c'est la communion. Mais avant ça, c'est la porte fermée. Il faut être né de nouveau. Et après ça, il faut entrer dans la vie et continuer. Et ça, c'est la vie chrétienne. Confiance en tout temps. Confiance au début, confiance au milieu et confiance à la fin quand je meurs et je passe en éternité. Et ma dernière souffle, je dis, je suis seul. Je suis sur le lit. C'est fini bientôt. J'ai 3 minutes peut-être, 10 minutes peut-être, une demi-heure. Et on est seul et personne ne peut vivre les choses en train de vivre. On est dans un hôpital. On est dans un IMS. Et on a vécu dans nos pensées. Nous avons tous ces souvenirs. Et maintenant, on est seul et personne ne peut vivre la même chose que nous. Et le Seigneur veut donner la grâce. Et on fait confiance pour entrer dans sa présence pour l'éternité. Ça, c'est notre vie. Et notre foi. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cette journée. On comprend très bien qu'il faut être né de nouveau. Et après, il faut continuer de faire confiance. Merci Seigneur pour cette journée. Bénis chacun et aide-nous de rappeler et jamais de nous laisser oublier l'importance de le salut. L'importance de la vie avec toi. Merci Seigneur. Bénis notre dimanche dans ton nom glorieux. Amen.